Returning this evening to the Gospel of John, chapter 1 and verse 17.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce soir dans l'Évangile de Jean au chapitre 1 et au verset 17. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il y a ici deux piliers du christianisme. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est là ce qu'elles sont. Deux piliers forts et solides. C'est là la clé du christianisme, de la foi chrétienne. Deux piliers, la loi et la grâce. Nous allons considérer ceci ce soir. Il n'y a pas de connaissance de Dieu sans comprendre la loi et la grâce, qui donne accès au caractère de Dieu, le comprendre lui, et donne accès au chemin du salut. La manière par laquelle Dieu œuvre dans le cœur des hommes et des femmes. Il n'y a pas de réconciliation personnelle avec Dieu sans comprendre la loi et la grâce. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Tout d'abord, j'aimerais parler d'une grande erreur. Vous pourriez lire ces paroles et faire une grande erreur. Et beaucoup de gens font cette erreur. Et certaines personnes lisent ces paroles et connaissent peu par rapport au christianisme. Et ils pensent que le sens de ce verset est de ce genre, qu'il y a deux dieux dans la Bible, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Et souvent, quand on parle aux gens, on entend ceci, le Dieu de l'Ancien Testament, qui parle de loi et ce qu'il demande aux gens. Certaines personnes pensent cela. Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu sévère. C'est une religion complètement différente, ils semblent penser. Mais dès que vous lisez la Bible et que vous comprenez la foi chrétienne, vous réalisez que c'est une grande erreur, une mauvaise conception des choses, mais c'est très courant. Les gens vont vous dire qu'il y a un Dieu dans l'Ancien Testament et un autre Dieu dans le Nouveau Testament. La grâce dans le Nouveau Testament, et par la grâce, nous pensons à la faveur de Dieu, à son pardon, qui est donné librement, qui ne peut pas être mérité. Le Dieu du Nouveau Testament a l'air bien plus bon, c'est un Dieu de grâce qui donne librement sa bonté, son pardon. Ainsi, ils pensent que c'est une confusion. La foi chrétienne est dérivée de ce livre qui a deux dieux qui semblent être contraires et qui se contredisent. Et à première vue, ce verset semble dire cela, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais réalisez-vous que ce verset ne parle pas en termes d'histoire, strictement parlant, quand la loi a été donnée et quand la grâce a été donnée, mais ceci parle des personnes par qui ces choses ont été données pour la race humaine. Dieu a donné la loi par Moïse. Il a également donné la grâce à Moïse. C'est là ce que souvent les gens ne comprennent pas cela, je vais l'expliquer. La loi, la sévérité de Dieu, les avertissements de Dieu et la grâce, la bonté de Dieu et le salut qui est libre, le pardon, la réconciliation avec Dieu que Dieu donne librement sont ensemble là dans l'Ancien Testament. Ce que ce verset veut dire, c'est que alors que Moïse pouvait être un instrument pour donner la loi, Dieu l'a écrite par son propre doigt sur des pierres, il l'a révélée, mais l'instrument donné au peuple était un homme, un simple homme, Moïse, mais la grâce ne pouvait être donnée que par celui qui était Dieu lui-même, la deuxième personne de la Trinité, le Fils éternel de Dieu, non pas un Fils dans le sens où il est né un jour, où il a été créé un jour, il a toujours existé, il a toujours été le Fils, égal au Père, également éternel, également Dieu, mais la grâce ne pouvait être obtenue que par celui qui était Dieu et qui est devenu homme, qui a souffert, qui est mort à la croix du calvaire, pour porter la condamnation éternelle du péché à la place des pécheurs qui seront rachetés, pour tous ceux qui seront pardonnés un jour, ce grand acte de payer le prix pour la grâce et d'obtenir la grâce a dû attendre la venue de Christ. Et dans tout l'Ancien Testament, sa venue a été annoncée, il a été promis, il a été prophétisé. Et ensuite est venu le grand temps, le moment où il est arrivé, incarné, né en tant qu'homme. Et il a prêché sur cette terre, il a fait ses miracles merveilleux. Et à la fin, il est allé à la croix du calvaire où il a souffert d'un tourment terrible et invisible, le tourment de tous ceux qui seront sauvés. Ainsi, le verset dit « La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce ne pouvait venir que par Jésus-Christ. » Elle opérait déjà dans l'Ancien Testament. Elle a été donnée dans l'Ancien Testament. Le pardon de Dieu était déjà donné dans l'Ancien Testament. Les gens venaient à Dieu également et le connaissaient dans tout l'Ancien Testament. Mais le prix n'avait pas encore été payé avant que Christ ne vienne. Ainsi, vous devez comprendre qu'il n'y a pas de différence, d'une certaine manière, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. J'espère que personne ici ne pensait cette erreur. Dans Genèse, chapitre 3, au début même de la Bible, quand la race humaine a chuté loin de Dieu et s'est rebellée contre Dieu, dans le récit biblique, Dieu a promis qu'un grand descendant allait venir. Il est appelé la descendance de la femme, mais il sera divin et il viendra. Et il va œuvrer pour vaincre le péché. Et il va écraser la tête du serpent. Et le serpent va blesser son talon dans ce processus. C'est la première prophétie qui parle du Sauveur, comment il viendra un jour. Et ceci lui a coûté très cher. Pour vaincre le péché, notre problème, la condamnation du péché. Et ensuite, dans le livre de la Genèse, plus loin, la même promesse, une promesse similaire a été donnée à Abraham, comment un grand descendant allait venir, par qui toutes les nations du monde seront bénies. Et c'est exactement ce qui s'est passé au moment où Christ est venu. Il a payé ce prix terrible pour les pécheurs, pour tous ceux qui seront sauvés. Et ainsi, tous les gens de toute nation du monde ont été bénis. Et je pourrais lire d'autres passages dans l'Ancien Testament, beaucoup de passages, la loi et la grâce. La loi de Dieu, c'est ainsi que vous devriez vivre. Et si vous ne pouvez pas vivre ainsi, que vous ne vivez pas ainsi, alors vous êtes sous la condamnation de Dieu. Mais il y a un pardon libre qui est donné si seulement l'âme humaine se tourne vers Dieu. Et ensuite, le livre du Deutéronome, le cinquième livre de la Bible, le cinquième livre de Moïse, comme nous le voyons aujourd'hui, au chapitre 29 et 30, Moïse est inspiré pour faire une alliance avec le peuple dans laquelle il dit, plus ou moins, et je simplifie ces choses, des choses du genre, vous allez pécher contre Dieu, mais si vous vous détournez de ces choses, que vous retournez de tout votre cœur, de toute votre âme vers Dieu, que vous revenez à lui dans la repentance, c'est là ce qui est impliqué là, alors Dieu va vous pardonner librement. Il va même vous transformer votre cœur et vous serez une nouvelle personne. Et vous allez avoir cette communion avec lui, vous l'aimerez. Et à la lumière de tout ceci, Moïse leur dit à la fin d'une grande prédication, « C'est pourquoi choisissez la vie, venez à lui, écoutez-le. » La loi, l'avertissement, puis il y a la grâce, le pardon libre, dès le début même de la Bible. Et chers amis, je ne veux pas vous fatiguer, mais vous pourriez voir dans tout l'Ancien Testament, dans le psaume 51, un grand psaume de David, de repentance. Écoutez ces paroles, la grâce, et là, le pardon libre. Et David crie en disant, « Ô Dieu, aie pitié de moi, selon ta miséricorde. » C'est comme si vous pourriez l'entendre dire « Oh, j'ai transgressé ta loi, j'ai fait une chose terrible, un certain nombre de choses terribles. Selon la grandeur de tes compassions, efface mes forfaits, mes transgressions. Librement, sans condition, oh, purifie-moi parfaitement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. » J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et je pourrais lire le verset 9 également. Purifie-moi de mon péché avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Ainsi il plaide avec Dieu pour son pardon immérité, pour sa miséricorde, pour son aide, pour cette transformation de Dieu. Et vous pouvez voir ceci dans l'Ancien Testament. Et dans Ésaïe, probablement la plupart d'entre vous connaissent ces paroles. Dans le chapitre 53, ceci parle de Christ. David a écrit 1000 ans avant Christ. Et ici, Ésaïe, 700 ans avant Christ. Voici la grâce, voyez-vous, et dans l'Ancien Testament. Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas, cependant il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, et nous, nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Ceci parle de la croix du calvaire, mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Et au verset 11, il jouira du travail de son âme, il en sera rassasié. Écoutez cela, mon serviteur juste en justifiera plusieurs. Mon serviteur juste est là, Christ, il en justifiera plusieurs, beaucoup. Par la connaissance qu'ils auront de lui et lui-même portera leurs iniquités. Je crois que c'est assez pour nous, mais nous pourrions passer toute la soirée ou toute une semaine ou une année entière pour voir dans tout l'Ancien Testament la grâce, la bonté de Dieu. Je vais vous pardonner. Repentez-vous de vos péchés, je vais vous pardonner. Je vais vous reconstruire, vous transformer. Je vais vous mettre sur le chemin vers le ciel. Je vous amène le Sauveur du monde, au temps voulu, pour souffrir, pour mourir, et pour expier vos péchés, et pour prendre votre condamnation sur lui-même, pour ôter la condamnation et payer le prix à votre place. Ainsi, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont les mêmes piliers, deux piliers, la loi et la grâce. La loi, tout d'abord, a été écrite dans nos cœurs. Elle est là, écrite et imprimée sur notre constitution humaine. Nous la connaissons par les activités de la conscience. Les critères moraux de Dieu sont là, imprimés sur notre être même. Ils sont écrits dans nos cœurs. Souvent, nous n'écoutons pas notre conscience. Nous la mettons de côté, nous la balayons, nous essayons de la reprogrammer, de la rendre silencieuse et de nous convaincre nous-mêmes que le mal n'est pas mal, après tout. Ainsi, nous piétinons notre conscience tant que c'est comme si elle s'éteint, et nous sommes à peine conscients de ce qui est juste, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ensuite, la loi est donnée dans les 10 commandements, elle est publiée une fois pour toutes pour la race humaine. Et avec les chapitres qui suivent les 10 commandements, dans les premiers livres de Moïse, les premiers livres de la Bible qui expliquent souvent les 10 commandements et expliquent les détails de la loi, quand vous lisez les 10 commandements, plus l'explication, les prédications de Moïse, vous découvrez quelque chose de remarquable. Que la loi morale de Dieu est le plus grand acte de bonté que la race humaine puisse avoir. Chacun des commandements de Dieu est un acte de bonté. Les commandements de Dieu, donnés là dans nos cœurs et publiés dans la Bible pour la race humaine, sont tout d'abord, mais ce n'est pas leur seul but, d'aucune manière. Ils ont été donnés d'abord pour réguler notre conduite et pour ordonner notre conduite. Ce monde serait un monde horrible et terrible et si plein de péchés s'il n'y avait pas les commandements de Dieu qui sont là imprimés sur notre conscience et publiés dans les 10 commandements. Et tant de nations, historiquement, les ont mis dans leur loi. Ces choses sont données par Dieu et c'est un acte de bonté de sa part. Et plus ces commandements sont observés et gardés, plus une société humaine est pleine de joie, de bonheur. Et je dis ceci parce que c'est important. Nous vivons dans une société qui est unique où même ces commandements sont attaqués. Ceci ne s'est jamais passé auparavant à ce point-là, à cette échelle. Mais c'est là le but, même les quatre premiers commandements qui parlent de notre conduite envers Dieu sont pleins de paix et de bonté. Parfois, nous les lisons, je n'aurai pas le temps ce soir, mais pensez à d'autres commandements, quelques exemples. Tu ne tueras point. Et ensuite, vous voyez comment Moïse explique cela. Tu ne tueras point, ceci inclut toutes sortes de meurtres, non seulement ôter la vie. Moïse dit, ceci inclut également ôter la liberté à quelqu'un, ôter le réconfort et la joie de quelqu'un, ou ôter toutes sortes de choses. Toutes ces choses sont sous ce commandement, tu ne tueras point. Quel acte de bonté! Dans notre conscience, dans une certaine mesure, et dans la loi de Dieu, il y a ces restrictions sur la conduite de la race humaine. Ainsi, je parle de la loi de Dieu qui régule la société humaine. Même si nous sommes si rebelles, mais c'est quelque chose de si bon pour nous, mais ces lois ont également une fonction si importante en ce qui concerne Dieu. Ceci montre ses caractères, son caractère parfait. Il est celui qui garde parfaitement ses commandements. Ainsi, quand Dieu dit « Tu ne commettras pas l'adultère », il sera fidèle et bon en toutes circonstances. Il nous soutient et vous le voyez lui en cela, parce que lui est fidèle et bon envers la race humaine. Oui, il doit juger le péché et condamner le péché, mais si vous venez à lui, il est le Dieu qui est bon et il garde ses propres commandements. Il est entièrement fidèle à ses enfants. Mais il y a une grande fonction de la loi là également, c'est pour nous avertir. La loi, c'est comme un docteur qui vous examine et vous dit ce qui ne va pas. Votre problème est très grave et vous devez être opéré. Mais c'est le docteur tout d'abord, le médecin généraliste probablement, qui va faire le diagnostic et vous dire ce qui ne va pas et quel est votre besoin. Et c'est la même chose pour la loi. Voici les critères moraux de Dieu. C'est ainsi que nous devrions vivre et nous ne vivons pas ainsi et nous ne pouvons pas vivre ainsi parce que dans notre nature même, nous sommes pécheurs. C'est ainsi que nous serons jugés. Et la loi nous dit quel est notre problème, que nous allons faire face au jugement de Dieu, que nous allons être condamnés pour l'éternité, que Dieu ne va pas œuvrer en nous parce qu'il est parfait et nous, nous sommes pollués par le péché. Et nous sommes pleins de tromperies et de péchés. C'est comme un docteur qui fait un diagnostic. Ou la grâce, c'est comme l'hôpital. Dieu, librement, dans sa bonté, nous donne le pardon. Et il fait cette grande opération dans votre vie qui vous transforme. Et vous êtes une meilleure personne. Et ceci vous délivre de la puissance du péché. La loi a cette fonction et elle nous dit la vérité. Elle nous explique pourquoi nous sommes loin de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il n'entend pas nos prières? Pourquoi est-ce qu'il ne nous accepte pas à la fin de notre vie? Le temps passe. J'aimerais vous dire quelques contrastes entre la loi et la grâce. La loi nous avertit par rapport à la condamnation à venir. La grâce ôte la condamnation à venir. Je me repens de mon péché, je crois en Christ, je lui donne ma vie et il me pardonne librement, il me transforme et il œuvre en moi par la puissance du Saint-Esprit. La loi me sépare de Dieu. Je ne peux pas garder la loi parce que je suis un pécheur et je suis enclin à pécher dans ma nature même. Alors que la grâce est l'opposé même. Imaginez que Dieu est une île et vous nagez et vous essayez désespérément d'aller vers le rivage mais vous ne pouvez pas parce que le courant vous amène toujours plus loin, la sainteté de Dieu vous amène toujours plus loin, vous êtes dans la détresse, vous criez pour son aide, il est Dieu, il est saint, vous êtes un rebelle, un pécheur contre lui et le courant vous emmène toujours plus loin. Mais la grâce, c'est comme le canot de sauvetage qui vous tire hors de l'eau pour vous amener sur le rivage et vous serez pardonné et sauvé. La loi nous repousse dans un certain sens Et c'est important. Mais la grâce nous amène au pardon et à une vie nouvelle. La loi est dure. Elle n'est pas réellement dure, mais nous sommes si obstinés et pleins de péchés délibérément. Nous n'aimons pas la loi. Nous ne pouvons pas la garder. Ainsi, c'est dur pour nous. Mais la grâce est facile. Tout ce que je dois faire, c'est venir. Et comme dit le cantique, je suis un ver, coupable, misérable, et je viens dans tes bras. C'est aussi simple que cela de venir à Christ. En croyant en Christ, en ce qu'il a fait à la croix pour ôter la condamnation du péché. La loi est dure. Oh, j'ai pitié des gens qui disent « Oh, je ne veux pas la grâce de Dieu, le pardon libre. Si je veux un Dieu, alors je veux mériter mon passage vers lui. » Non, vous ne pouvez pas faire cela. La loi est dure, difficile. Mais la grâce est si facile. Ceci est merveilleux. Chers amis, il y a tant d'autres différences. La loi enseigne le caractère de Dieu, mais la grâce nous donne le caractère de Dieu. Ainsi, nous l'aimons, le pardon libre, le salut. La loi, c'est ce que nous aurions dû faire pour plaire à Dieu. Mais la grâce, c'est ce que Christ a fait pour nous et à notre place. Il a pris la condamnation à notre place. Et par sa grande justice et sa perfection, il a mérité le ciel à la place de tous ses enfants. Ce sont là les grandes différences entre la loi et la grâce. Je dois en arriver à la conclusion, chers amis. La loi de Dieu et ses demandes, ses requêtes, ses critères moraux aussi saints. La loi, c'est le réalisme. C'est la loi de Dieu qui nous montre où nous nous tenons. Sans espoir, perdu, condamné éternellement. La grâce, c'est l'opposé même. La grâce est au-delà de ce que vous pouvez imaginer ou rêver. La loi, c'est le réalisme. C'est ainsi que c'est. Et la grâce, c'est la bonté de Dieu si merveilleuse qui est déversée librement pour nous. Vous serez pardonnés, vous aurez une vie nouvelle et vous aurez une place au ciel. Vous serez mes enfants, je serai votre Dieu et je vous donnerai toutes choses. Je vais vous soutenir, vous aider, prendre soin de vous, entendre vos prières, je serai votre Dieu. C'est au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou ce à quoi nous pouvons rêver. Chers amis, qu'est-ce que vous allez choisir? Le message de Dieu, de sa grâce. La loi est bonne envers la société pour y mettre de l'ordre, mais la grâce est bonne envers l'âme et nous sauve et nous amène au ciel pour toujours. La loi amène à la mort et la grâce amène à la vie. Ces deux piliers de la foi chrétienne, la loi de Dieu, ses critères moraux saints, et la grâce de Dieu si merveilleuse, et son amour, et sa bonté, son pardon qui est libre. Vous devez comprendre ces deux choses. Je suis condamné par le Seigneur, et je reçois la grâce de Dieu, et je me donne à lui. Et je lui consacre ma vie. Je recherche son pardon libre. Vous devez comprendre la loi. Elle ne vous sauve pas, mais elle vous avertit uniquement. Vous êtes allé chez le médecin et il vous a dit que c'était grave. Vous avez eu la lettre de l'hôpital, mais vous devez aller à l'hôpital, recevoir la miséricorde, recevoir la grâce, la paix. Vous avez besoin de la loi et de la grâce. Chers amis, l'islam n'a que la loi. Et l'islam vous dit que vous pouvez travailler dur pour plaire à Dieu. Et ceci n'est pas une bonne chose parce que c'est impossible. Le christianisme vous donne également la grâce et un sauveur. C'est là la différence entre la loi et la grâce. La loi et la grâce, c'est les piliers de la foi chrétienne. Venez à Christ pour la grâce. Soyez convaincus par la loi, qu'elle puisse vous montrer votre besoin de Christ. Et venez à Christ humblement pour chercher son pardon et sa vie nouvelle. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, fais grâce à chacun d'entre nous, nous te prions. Aide-nous ce soir, montre-nous ces choses, Seigneur, ta parole, ton évangile. D'une certaine manière, est si simple, et cependant si profonde, que Christ vienne, qu'il souffre, qu'il meure pour des êtres perdus tels que nous sommes. Seigneur, aide-nous, amène-nous à toi. Nous te demandons ces choses dans le nom de notre bien-aimé Sauveur, pour sa gloire.